Bonsoir, bienvenue à Une heure en Palestine avec Palestine 13. Avant de présenter notre invité de ce soir, j'aimerais vous présenter quelques actualités locales pour la semaine. À Jouk, il y a une conférence débat Israël-Palestine mercredi 5 novembre, donc c'est ce soir à 20h30, salle de la gare. Une rencontre avec Pierre Stamboul de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Du vendredi 7 au samedi 13, nous sommes invités pour la nouvelle édition du festival Art et Exil Migrants Scène, organisé par la CIMAD. Pour plus d'informations, voir le site de la CIMAD. Il y a une rencontre-débat organisée par notre association AFPS, Palestine 13, Gaza, la paix sous les décombres de la justice, également avec Pierre Stamboul de l'UJFP, vendredi le 7 novembre à 18h au local de l'Union syndicale solidaire 13. À Martigues, au cinéma La Cascade, à 18h, il y a le vendredi 7 aussi un concert du groupe Loz, suivi à 19h d'une projection du film D'un exil à l'autre, un documentaire sur une réfugiée palestinienne. Contactez la médiathèque de Martigues pour les informations. À La Ciotat, le collectif Palestine La Ciotat, il y a une exposition sur la Palestine et le génocide le dimanche 9 novembre en face de la poste à La Ciotat à partir de 11h30 avec une exposition vente d'œuvres d'art au profit de Médecins sans frontières et du Secours populaire. Le mercredi 12 novembre à 14h au cinéma La Baleine à Marseille, le festival film Femmes de la Méditerranée présente un court-métrage qui pourrait vous intéresser, A Night We Held Between, un titre en anglais réalisé par Noor Abed, voilà, à 14h à La Baleine. Et puis, le 29 novembre, très important, il y a une grande manifestation nationale unitaire à Paris, à 14h, place de la République, le samedi 29 novembre. Retrouvons-nous, nous sommes attendus par les centaines de milliers, parce que Israël poursuit l'occupation et la colonisation de la Palestine et l'oppression du peuple palestinien. Cela doit cesser. Donc nous nous manifesterons pour la défense des droits du peuple palestinien sur la base du droit international. Nous revendiquons l'autodétermination du peuple palestinien qui doit être l'acte de son propre destin et le droit au retour des réfugiés palestiniens. La fin de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid et les sanctions contre Israël. Voici les actualités locales pour la semaine. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de accueillir Claude Zurbach, qui est ingénieur de métier, traducteur de livres, responsable de l'édition du site francophone Chronique de Palestine. Il est investi depuis de nombreuses années pour la cause palestinienne. Claude, tu es venu à Marseille cette semaine pour présenter une traduction du livre en français « Ces chaînes seront brisées », récit palestinien de lutte et de résistance dans les prisons israéliennes. Mais d'abord, moi je voudrais te demander pourquoi ton investissement à côté des Palestiniens. Quelle était cette rencontre, Claude?
Cette rencontre, c'est un phénomène qui touche ma génération. Les gens de mon âge ont toujours un peu vécu avec la question palestinienne. Depuis notre prime jeunesse, ce qui me concerne, c'est même la guerre de 1967 qui a un petit peu éveillé ma conscience politique sur la question palestinienne, à une époque où je découvrais un petit peu la politique internationale et surtout les outils un peu conceptuels qui permettent de comprendre le monde tel qu'il fonctionne. Et cette guerre de 67 a été un élément déclencheur. Bon, après, dans les années qui ont suivi, j'ai été investi politiquement dans des organisations très radicales. Ça a duré un certain temps. La question palestinienne était toujours un peu en background, toujours là. Puis ensuite, plus tardivement, donc essentiellement à l'époque de la seconde intifada, j'ai pris la décision de m'investir dans le champ de la solidarité, mais en utilisant les capacités acquises dans mon métier, donc comme informaticien, comme ingénieur de télécommunication, etc. Et cette époque voyait le fort développement de tout ce qu'on a appelé ensuite le web, les capacités démultipliées de communication, de mise en ligne de documents, de pérennisation de l'information, avec des outils qui étaient moins élaborés que ceux d'aujourd'hui, mais ça a été un peu une révolution sur le plan de la défense des idées. Donc avec d'autres informaticiens, nous avons fait une petite association et qui a épaulé les collectifs de ce moment-là, des diverses associations sur la Palestine, pour qu'ils prennent en main ces outils de publication. Ça a été un travail assez intense qui a duré beaucoup d'années. On a fait les premiers sites comme l'AFPS, la plateforme des ONG et d'autres. Et ensuite, on a eu un fort investissement dans la campagne civile internationale pour la protection du peuple de Palestine. C'était des initiatives de mission qui étaient constituées durant la seconde intifada, une initiative essentiellement française, mais avec aussi des relais internationaux. Et ensuite, à la fin de toutes ces initiatives, nous avons conçu notre propre projet qui était un projet éditorial Info Palestine. Alors bon, Info Palestine, peut-être certains s'en souviennent, mais c'était devenu un site de référence pour la documentation, l'information. Et surtout, on avait pris le biais de vouloir diffuser la pensée palestinienne et la pensée arabe, la pensée du Proche-Orient, pour aller à l'encontre du discours qui était celui qu'on subissait ici depuis si longtemps. Donc je pense qu'on a contribué à faire connaître plusieurs intellectuels palestiniens, dont Ramzi Baroud, dont nous parlerons tout à l'heure. Et ensuite, à un moment donné, la décision a été de se joindre à un projet éditorial qui est Palestine Chronicle, qui est donc initié et animé par Ramzi Baroud à partir des États-Unis. Et nous avons mis en place une version française qui s'appelle Chronique de Palestine.
Et donc, Chronique de Palestine existe depuis quand? Et Palestine Chronicle, qui existait avant, peux dire quelques mots?
Alors, le Palestine Chronicle, je pense que c'était une initiative 2010 ou 2011, je ne me souviens pas de l'année exacte. Et ma prise de contact avec Ramzi Baroud, qui animait ce projet, remonte à 2011. Voilà. Et ensuite, Chronique de Palestine, c'est 2016. Donc aujourd'hui, cela fait 9 ans. 9 ans d'existence, c'est ça, oui. Donc c'est un projet qui dure qui dispose aujourd'hui d'une base documentaire importante.
Et qui grandit. Tu avais dit, je pense, qu'il y a en Italie, il existe.
Oui, il y a une version italienne depuis quelques temps. Et l'idéal serait d'avoir aussi une version espagnole, une version portugaise pour toucher le public du Brésil et le public portugais, bien sûr. C'est un gros travail, quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas les perspectives qui manquent.
Donc, c'est une organisation qui met la lumière sur tout ce qui est les droits humains, les luttes nationales, pas que la Palestine. C'est les choses... ça touche...
Touche essentiellement la Palestine, mais c'est vrai qu'on traite dans la mesure du possible les sujets connexes, comme la situation en Syrie, la situation au Liban, pour une part aussi la situation en Égypte, tout ce qui a un impact sur la question palestinienne. On peut aussi s'intéresser à certains moments sur la vie politique aux États-Unis, par exemple avec l'élection de Mamdani donc à la mairie de New York, qui, à mon avis, est un événement... qui illustre un point de bascule qu'on est peut-être en train d'approcher, quoi. Et si ce point de bascule se confirme, à un moment donné, les choses pourront aller très vite. Mais en tout cas, on n'aurait jamais imaginé, il y a 10 ans, avoir un maire palestinien, anti-génocidaire, solidaire de la Palestine, maire de New York.
Alors, tu as évoqué Ramzi Barout, qui est l'éditeur en chef de Palestine Chronicle, si j'ai bien compris. Le livre que tu es venu présenter est une collection de récits que lui, il avait recueilli. C'est, tu as traduit ce dernier livre en français. Tu as été emmené aussi à traduire d'autres livres de Ramzi Barout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette personne?
Oui. Bon, Ramzi Barout, c'est vrai que bon, c'est une amitié hein, qui s'est développée avec le temps. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes activités professionnelles, à un moment d'aller le voir à deux reprises aux États-Unis. Nous avons fortement sympathisé. Ramzi Barout aussi est quelqu'un qui est abordable, qui a un grand sens des relations, qui a beaucoup d'empathie. Ben, c'est une personne extrêmement agréable, qui a une énorme capacité de travail. Il est né en 72, hein, donc aujourd'hui il a 53 ans. Il a dû quitter la Cisjordanie après ses études à Birzeit, où il était un des dirigeants du mouvement étudiant. Il a poursuivi ses études aux États-Unis et il n'a pas pu rentrer en Palestine, comme c'est arrivé à beaucoup de Palestiniens une fois qu'ils sont partis. Il est originaire de la bande de Gaza, du camp de Nusayrat, dont il reste vraiment peu de choses aujourd'hui. Et sa famille élargie, au sens large, vivait à Gaza. Alors une partie de sa famille est aussi en Cisjordanie, mais en Cisjordanie, il n'a pas pu s'y rendre depuis son départ. Alors, Ramzi Barout est un analyste, un journaliste, c'est aussi un chercheur. Il a fait un travail de thèse avec Ilan Pappé, qui est historien israélien, qui travaille aux États-Unis, mais en Angleterre.
Avec qui il a publié un livre.
Il a publié un livre, oui, qu'on a traduit également, qui s'appelle « Notre vision pour la libération des intellectuels palestiniens s'exprime ». Mais j'en dirai peut-être un petit mot tout à l'heure, quand on parlera des perspectives. Ilan Pappé est une personnalité remarquable, hein, pour résumer les choses, qui est extrêmement claire du point de vue de ses positions politiques par rapport à la colonisation, par rapport au colonialisme. Il s'inscrit dans une perspective historique réellement anticoloniale et c'est un point de référence. Donc il a été directeur de thèse de Ramzi Barout dans le cadre d'une étude qui correspond à un courant historique hein, qu'on appelle l'histoire populaire. Et ce travail réalisé donc, a un peu abouti à ce livre là dont on va parler tout à l'heure, qui est « Notre vision pour la Palestine ». Alors, Ramzi Barout, j'ai traduit ce qu'il avait écrit sur la deuxième intifada. Ça a été ma première traduction aux éditions Scribest. Ensuite, j'ai travaillé sur une biographie qui s'appelle en français donc « Résistant en Palestine » aux éditions 2001, qui est sortie en 2013. Pour laquelle, cette édition, j'ai organisé à l'époque une visite de Ramzi Barout dans le domaine francophone. Ça a été la Belgique, la Suisse et la France. Une tournée qui a été intéressante, qui a permis de rencontrer beaucoup de monde et qui assurait la promotion du livre. Après, nous avons travaillé, parce que ça a été une traduction collective, donc sur ce livre, Notre vision pour la libération. Et la dernière traduction que j'ai assurée seule, c'est ces récits de prisonniers. Tout à l'heure, on parlera de la question des prisonniers et puis on contextualisera un petit peu les récits tels qu'ils ont été recueillis et rédigés au moment où le livre s'est fait dans sa version anglaise, parce que ça remonte à quelques années. Et nous savons tous que les conditions carcérales ont tellement empiré depuis le 7 octobre que la réalité d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir. Oui.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bon peut-être de se rappeler que l'histoire du prisonnier ne se résume pas à lui-même. Elle parle aussi d'un peuple qui refuse de se soumettre. Elle parle de la volonté humaine, cette volonté obstinée, belle et inébranlable d'être libre. Nous allons écouter une chanteuse qui est militante pour refus de se soumettre.
يا ظلام السجن فجر مجد يتسامى ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى يا رنين القيد زدني نغمة توجي فؤادي يا رنين القيد زدني نغمة توجي فؤادي إن في صوتك معنى للأسى والاضطهادي إن في صوتك معنى للأسى والاضطهادي يا ظلام السجن خيم نحن لا نخشى الظلام يا ظلام السجن خيم نحن لا نخشى الظلام ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى
Nous venons d'écouter la voix engagée pour la liberté et la dignité humaine de Makhadi Nahas, qui est une femme jordanienne. Nous avons entendu un chant qui fait partie de la mémoire collective nationale palestinienne, le chant des prisonniers, Ya Thalam El Sijni Chayem. Ô obscurité de la prison, lève-toi, nous aimons l'obscurité. Seule l'aube de la gloire se lève après la nuit. Macadina, c'est très intéressant parce que son père était écrivain et ses livres étaient interdits de publication car il défendait les droits de l'homme dans le monde et les Palestiniens en particulier. Et cela se posait à la politique de l'État jordanien dans le temps. Donc, McCarthy est devenu messager du monde arabe affligé de conflits politiques, sociaux et religieux. Alors, revenons à notre sujet. Donc, Claude, tu es venu cette semaine pour présenter le livre, un recueil de récits palestiniens de lutte et de résistance dans les prisons israéliennes. Ces chaînes seront brisées. Quelle est la genèse de ce livre?
Bon, la question des prisonniers a toujours été une question centrale. La donnée qu'il faut avoir en tête, c'est que la condition des prisonniers est emblématique de toute la situation de la Palestine. Donc tout le monde est enfermé, collectivement, individuellement, et les prisonniers sont la partie la plus évidente, la plus criante de ce monde fait d'incarcération. Avant d'aller plus loin dans le sujet, je tiens à dire que je m'appuie beaucoup sur les travaux de Lat Abdallah, qui est une grande spécialiste de la question de l'incarcération, des politiques carcérales en Israël, en Palestine. Donc elle a fait un travail académique absolument remarquable et il est intéressant et utile de s'appuyer sur ses travaux. Pour revenir à la question des prisonniers, ce livre a une genèse, effectivement, c'est un projet, je pense, que Ramzi Baroud a eu longtemps en tête. Et il a exploité tout son réseau relationnel pour recueillir des témoignages, des récits, qui sont des récits directement de prisonniers qui sont encore incarcérés. Donc ça peut être sorti sur des bouts de papier, où il y a beaucoup de répétitions, où il y a des trous, où il manque des choses. Il faut reconstituer des histoires et ça passe par aussi bien la famille que l'avocat. Des fois, des communications téléphoniques quand certains combinés téléphoniques pouvaient être utilisés de façon clandestine. Ça, c'était la partie peut-être la plus difficile de ce travail de collecte et de mise en forme. Ensuite, il y a des récits qui sont des récits de la famille. Alors, un père parle de son fils. Ce sont des moments très forts. Une mère parle de son fils. Un frère va parler de ses frères, de ses sœurs. Tout ceci a demandé à Ramzi Baroud, il y a eu des interviews également, oui, a demandé un travail d'écriture réel. Ce n'était pas simplement un travail de collecte. Et là, il a dû mettre en œuvre toutes ses capacités d'écrivain pour aboutir à des récits très formalisés, très exploitables, qui ont connu une version anglaise, en priorité. La version anglaise, maintenant, remonte à plusieurs années. Il faut bien avoir conscience que la version française, elle sort donc dans un contexte qui n'est pas plus le même, et qu'à compter du 7 octobre 2023, la condition carcérale a empiré à un point inimaginable. Tout ceci dépend d'une espèce de psychopathe qui s'appelle Benjivir, ministre de la Sécurité, une espèce de super ministère de l'Intérieur et de la Répression, il faut l'appeler comme il est. Il y a également l'armée maintenant qui intervient dans les conditions d'incarcération directement. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Katz, qui est un véritable fasciste, qui a mis avec beaucoup de monde en Europe et en France. Plein de gens ici n'étaient absolument pas gênés de se présenter et de se montrer avec lui. Benjivir, Katz, Smotrich, je ne vais pas citer la litanie des noms de tous ces gens qui sont des fascistes déclarés et qui aujourd'hui conditionnent la politique israélienne vis-à-vis des prisonniers. Appeler ça politique en plus, j'ai un peu du mal de qualifier ça de politique. Condition carcérale qui a tellement empiré, maintenant on commence à savoir dans le contexte des libérations de prisonniers palestiniens toutes les tortures qui ont été infligées les prisons sont surpeuplées, tous les droits chèrement et durement acquis dans les années passées au prix de grèves de la faim individuelle et collective qui étaient extrêmement dures, demandaient une énergie incroyable, tout ceci a volé en éclats. Aujourd'hui, les conditions sanitaires sont telles qu'il y a des propagations de maladies de peau comme la gale. Il y a une malnutrition chronique qui est sciemment entretenue pour empêcher qu'il y ait des mouvements collectifs qui puissent se développer. On n'arrive plus trop à estimer réellement le nombre de prisonniers. Si on s'appuie sur les données des organisations de défense palestiniennes, Ça se situe autour de 12 000, mais il manque certainement un grand nombre de prisonniers qui sont sous le contrôle de l'armée et qui sont des gens qui ont été raflés dans la bande de Gaza. Bon, maintenant, les choses commencent un petit peu à se savoir. Donc, les tortures, les conditions carcérales innommables. Et il faut avoir en tête donc, les récits que l'on lit dans ce livre, qui sont déjà extrêmement bouleversants, sont en deçà de la cruelle réalité d'aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a les récits qui t'ont particulièrement marqué, dont tu voudrais parler, tu voudrais peut-être lire un passage ?
Oui, bien volontiers. Les récits ont un fil conducteur hein, qui est les pensées, les émotions, les souffrances de tous ces gens qui subissent l'incarcération pour des durées de temps des fois infinies. Enfin, beaucoup de cas sont des cas de gens qui sont condamnés à la prison à vie. Et assez étrangement, il y a un système qui s'est construit autour de ça, qui se veut un système basé sur le droit, où finalement des tribunaux militaires complètement incontrôlés, de manière arbitraire, condamnent un peu qui ils veulent, sur les critères qu'ils veulent. Mais c'est un droit sans justice, ça n'a rien à voir avec la justice. C'est une formule de Latif Abdallah que je reprends, hein, mais qui est extrêmement expressive. C'est-à-dire, il y a du droit, il y a le droit de l'occupant, mais ça n'a rien à voir avec la justice. Et tout ceci vole en éclats quand il faut procéder, pour des raisons de rapport de force, à un échange de prisonniers. À ce moment-là, eh ben, on trouve les moyens de libérer 250 personnes, par exemple, qui étaient condamnées à la prison à vie, alors que sur le plan strictement légal de l'occupant, normalement, cette chose n'est pas possible. Donc ce sont des conditions politiques qui font que ces libérations se produisent. Alors dans ce livre, les récits qui sont, moi, à mon avis, les plus émouvants, ce sont les récits de la séparation avec la famille. Séparation avec les parents, séparation avec les enfants, le sentiment qu'on inflige une douleur constante aux gens qui sont chers. Oui. Et alors j'ai je vais lire un extrait. C'est donc un prisonnier qui s'appelle Mohamed, qui a fait une vingtaine d'années de prison, qui a été libéré en 2011 dans le cadre de l'échange de prisonniers entre ce soldat israélien Shalit et plus d'un millier de prisonniers politiques palestiniens. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là que Salah Hamouri a été libéré. Donc Salah Hamouri a été libéré, non par le gouvernement français, qui s'est très peu occupé de lui, mais a été libéré, en fait, par la résistance palestinienne. Je vous invite à lire, d'ailleurs, son récit, hein, qui est paru là, récemment, je ne sais plus dans quelle maison d'édition, qui est extrêmement instructif, c'est un témoignage de poids. Donc, ce monsieur condamné à 20 ans avait une fille islam au moment où il a été emprisonné. Elle avait 6 mois. Et il raconte un petit peu comment il l'a imaginée ou très difficilement l'a vue grandir. Et ensuite, comment il l'a retrouvée au moment de sa libération en 2011. Islam n'avait que 6 mois lorsque j'ai été arrêté en octobre 1993. J'ai passé les premiers mois de mon incarcération dans la prison de Saraya, au centre de Gaza. Je n'ai pas pu voir ma fille pendant des mois. Elle a entre-temps grandi, passant du stade de bébé à celui de petite fille. Lorsqu'elle est venue me rendre visite pour la première fois, avec ma femme et ma mère, je ne l'ai pas reconnue. Elle courait partout, heureuse, sans se soucier du reste du monde. « À qui est cet enfant ?» leur ai-je demandé. Ma femme et ma mère se sont mises à pleurer. Elles m'ont dit qu'elle était ma fille, Islam. J'ai alors maudit l'occupation pour m'avoir privé de ma famille pendant si longtemps. Pendant les 3 premières années, j'ai été déplacé d'une prison à l'autre. Cela se faisait à l'occasion de mes interrogatoires et de mes audiences au tribunal. Pendant cette période, j'ai rarement vu Islam, ma femme ou ma mère. Mon amour pour Islam s'est approfondi avec le temps. D'autant plus que ma femme, qui était enceinte lorsque j'ai été arrêté, a perdu son bébé. L'armée israélienne n'a cessé de faire des incursions dans notre maison et d'arrêter des membres de ma famille. Les traumatismes et les peurs à répétition ont affaibli ma femme. Une grave hémorragie survenue dans un hôpital de Gaza a fait qu'elle a perdu notre deuxième enfant. Pendant 20 ans, j'ai rêvé d'Islam. Son magnifique visage, son innocence et son amour de la vie étaient ma principale raison d'être. Elle me visitait dans mes rêves et sa pensée m'accompagnait tout au long de la journée. Les rares fois où je l'ai vue, je n'ai jamais été autorisé à la serrer dans mes bras, ni même à toucher sa petite main. Je l'ai vue grandir derrière d'épaisses parois de verre. 3 ans après ma première arrestation, cependant, j'ai enfin été autorisé à être avec elle, mais seulement pour 20 minutes. Lorsque je l'ai prise dans mes bras pour la première fois, je l'ai serrée contre mon cœur. Et j'ai senti que toute la tristesse et toute la solitude dont j'avais souffert étaient apaisées. J'ai senti que je tenais mon propre cœur et mon âme entre mes mains. Ma belle et pure Islam, avec moi après toutes ces années, toute l'obscurité de ma cellule, les longues années de torture et d'interrogatoire se sont effacées. Pendant un instant, je me suis senti accompli. Pendant tout le temps que j'ai passé avec elle, j'ai essayé de retenir mes larmes. Ma femme et ma mère n'en ont pas été capables. Je devais jouer le rôle du mari et du fils solide. Mais je ressentais une douleur aiguë dans ma poitrine et mon ventre. Je ne voulais... Quand elles sont parties, je suis retourné dans ma cellule. Je ne voulais ni manger, ni parler à qui que ce soit. Je voulais juste savourer les échos de leur voix, en particulier les phrases toutes simples et les rires de ma fille. Cette nuit-là, je me suis endormi en cachant mon visage dans mes mains pour que mes camarades ne me voient pas pleurer. J'ai finalement retrouvé Islam en 2011, lorsque j'ai été libéré. Je l'ai vu de mes yeux avec son mari au point de passage de Rafah, alors que nous étions autorisés à entrer dans Gaza par l'Égypte. Le bébé de 6 mois que j'avais laissé derrière moi était maintenant une femme adulte, mariée et mère de 2 enfants. Elle a appelé son premier-né Mohammed, comme moi. J'ai quitté la prison par la volonté de Dieu, et maintenant je vis en compagnie de ma femme, qui me soutient. Nous avons eu 4 autres enfants, Nohan, 6 ans, Mar'am, 5 ans, Hamza, 4 ans, et Hazim, 3 ans. Ma si belle première-née Islam a maintenant 26 ans. Elle a eu 2 autres enfants. Outre Mohammed, elle a également Liane, Hamdi et Koussei. Mes parents, aujourd'hui octogénaires, sont trop âgés et fragiles. Je fais de mon mieux pour passer le plus de temps possible auprès d'eux, pour compenser une partie de leur souffrance lorsque j'étais emprisonné. Une nouvelle génération va se lever, prête à reprendre la direction de notre combat pour la liberté. Je regarde mes enfants et les enfants de mon Islam, et je vois un avenir prometteur et plein d'espoir. Mais rien au monde n'égale ma belle Islam. Elle est ma fierté et ma joie de vivre. Merci.
Merci Claude. Alors Ramzi Barhoud insiste sur l'importance du récit, des mots, de la parole. Et là, il dit dans un article qui est publié sur le site Palestine 13, justement aujourd'hui, il parle du fait qu'il s'agit d'une lutte pour savoir quel récit définit la réalité. Donc là, nous sommes, même si ça date de quelques années peut-être, au cœur d'une réalité, d'une personne, et voilà, une personne qui refuse d'être vaincue, qui continue à raconter leur histoire, ce qui est un acte de défi à tout moment. Alors, est-ce que tu voudrais dire quelque chose de plus sur ce récit ou
Oui, mais une considération un petit peu générale sur, sur la raison d'être de ce livre et sur, sur un petit peu ce qu'on en attend. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les témoignages sont expressifs comme ils peuvent l'être. C'est une réalité palestinienne, c'est une réalité culturelle aussi qui apparaît. On rentre, on comprend les rapports familiaux, comment cette société s'organise, quels sont ses liens, qu'est-ce qui la rend finalement solide, et en quoi les gens y sont tellement, tellement attachés. Ce ne sont pas des récits qui sont préparés et adaptés à un public quel qu'il soit, et surtout pas un public occidental. On voit les Palestiniens, le cœur de la société palestinienne, telle qu'elle est, avec ses liens, avec ses faiblesses, mais avec un courage immense, ouais, qui dépasse un peu l'entendement, d'une certaine manière. Et surtout, ces récits induisent automatiquement un sentiment de proximité. Moi, je suis très touché par l'histoire d'Islam, parce que j'ai des filles. Donc, ce qu'éprouve Mohammed, je le comprends et je le ressens. Donc, bien qu'ayant traduit ce texte, et puis... lu je ne sais combien de fois au moment de la préparation de la maquette pour l'impression, chaque fois que je le lis, je suis bouleversé. L'émotion est toujours là, elle est toujours présente. Ça n'est pas une lecture facile, c'est pas un livre qu'on peut lire d'un seul jet. Il faut le lire un peu morceau par morceau, selon l'état d'esprit dans lequel on est, selon aussi les situations qui sont évoquées. Mais on ne voit plus les Palestiniens comme des gens extérieurs à nous, mais on sent une forte communauté. Donc c'est regrettable de devoir dire ça, mais ça va à l'encontre de la déshumanisation, l'invisibilisation des Palestiniens. On peut à certains moments reconnaître certains traits de caractère et le courage qu'ils manifestent, mais quelque part il y a toujours une idée d'anormalité. Bon. Les mots les plus extrêmes, hein, c'est de refuser aux Palestiniens le statut d'être humain, comme le font les Israéliens. Bon. Quoi qu'on fasse, qui que nous soyons, nous sommes tous des êtres humains, nous appartenons tous au genre humain. C'est bien la question. Donc, ce livre est une pierre essentielle pour développer ce sentiment de proximité et de compréhension de la question palestinienne à un niveau profondément humain.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on entre dans le cœur de l'intimité de cette personne, mais c'est toujours lié à la grande histoire, au collectif.
Oui.
C'est jamais une lutte individuelle, c'est toujours lié au collectif.
Mmh.
Et au-delà de la Palestine, justement. Voilà.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que l'on dit qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas une situation facile pour les Palestiniens, la question palestinienne, elle est au centre. Elle a pris une importance telle qu'elle exprime toutes les contradictions du monde contemporain, tous les conflits existants à venir. Bon, donc la question palestinienne est devenue extrêmement emblématique. On a un peu l'idée finalement que si on est capable un jour de résoudre cette question dans la justice, automatiquement on résoudra beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais les Palestiniens n'ont pas un poids géopolitique, économique, etc., militaire, qui fait que il faille en tenir compte, quoi. Donc, c'est ce qu'on va appeler le mouvement de solidarité, la société civile qui va devoir remplir ce vide.
Alors, on avait parlé des actes de défi. Est-ce que je voudrais lire un passage de l'article de Ramzi Baroud qui a été publié sur le site aujourd'hui de Palestine 13. Il dit « Les drones, les avions de combat et les bombes anti-bunkers peuvent modifier le paysage immédiat, mais ils ne peuvent éteindre l'esprit d'un peuple qui maîtrise déjà l'art de la survie et de la résistance depuis des millénaires. » Écoutons maintenant pour un peu de temps un chant, une composition faite par un professeur de musique à Gaza à travers les défis de la vie dans une tente aujourd'hui à Gaza. Écoutons ce que cette personne, ces personnes ont pu créer.
Juan, how are you? I miss you a lot, really. Today there's a lot of drones. I'm gonna sing you a song today with drone. Oh, شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ويل ويل من الله لا سهر على نجوم الليل انا ناديلو شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ويل ويل من الله لا سهر على نجوم الليل انا ناديلو شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل وين وين عالظالمي وين 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 لا أسهر على نجوم الليل أنا نديل شيل شيل على زمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالليل يا ليل وين وين عالظالمي وين 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 لا أسهر على نجوم الليل أنا نديل.
Alors, nous venons d'écouter une composition sur une basse continue de drone à Gaza par un professeur de musique du Conservatoire Edward Said, le Conservatoire national de musique de la Palestine, de l'Université de Beer Sheva. Ce professeur s'appelle Ahmed Mouin Abou Amcha. On peut le suivre sur les réseaux sociaux. Il a aussi un site qui s'appelle en anglais Songs from the Rubble, chansons des décombres. C'est vraiment encore un exemple, un témoin extraordinaire de comment lutter contre tout ce qui est fourni par les oppresseurs. Il a fondé un groupe, Gaza Bird Singing, les oiseaux de Gaza chantent avec les enfants déplacés et les musiciens qui chantent ensemble pour l'amour, pour la liberté, pour la vie. Pour lui, à travers la musique, il dit « Nous tentons de redonner aux enfants leur voix et de leur offrir l'espoir au milieu des décombres. Notre cri humain dit au monde « Nous aimons la vie, nous aimons la musique ». Nous souhaitons vivre avec dignité et en paix, comme les autres. Voilà, c'est un témoin extraordinaire. On peut le suivre sur les réseaux sociaux. Alors, Claude, donc, peut-être tu voudrais parler un peu plus de Ramzi Baroud?
Oui, volontiers, oui. Bon, Ramzi est connu comme intellectuel international. Alors, il est assez bien connu dans le champ francophone, il pourrait l'être plus. Donc, le travail de promotion du livre que j'assure actuellement en faisant une tournée, donc, doit contribuer aussi à ce que Ramzi Baroud soit mieux connu.
Donc, le livre « Ses chaînes seront brisées »,« Récits palestiniens de lutte et de résistance dans les prisons israéliennes », par les éditions Scribest. On peut le trouver, si on veut l'acheter, on peut le trouver sur le site. Comment on fait?
Bon, le mieux, c'est de le commander en librairie.
En librairie.
Oui, alors je sais que le référencement dans les grandes banques de données exploitées par les libraires vient d'être fait. Mais sinon, si on mentionne les éditions Scribest, n'importe quel libraire peut le trouver et le commander.
On peut le trouver facilement.
Il est possible aussi de le commander directement sur le site de Scribest, où il y a un formulaire qui permet de passer commande. À ce moment-là, peut-être avec des conditions financières un petit peu allégées. Et moi-même, j'assure la diffusion du livre lorsque j'anime des réunions de présentation dans des lieux qui ne sont pas des librairies. À ce moment-là, donc, j'assure moi-même la vente du livre. En général, l'accueil est très bon. Je me rends compte en même temps qu'assurer la promotion d'un livre comme celui-là demande un travail de terrain. Ça ne se fait pas tout seul. Alors, quelques mots supplémentaires sur Ramzi Baroud. C'est que Ramzi Baroud appartient à ce qu'on appelle la diaspora. De nombreux intellectuels palestiniens sont dans la diaspora. Ont une production intellectuelle remarquable qu'il faut connaître. Pour cela, il paye un prix élevé. Il paye un prix élevé qui est déjà l'impossibilité de retourner en Palestine. Donc, que des contacts à distance. Et avec l'offensive génocidaire qui s'est développée depuis octobre 2023, le prix à payer est aussi humain. Alors pour citer quelques exemples, bon, comme nous publions beaucoup de Palestiniens sur la version anglophone ou francophone ou italienne de Palestine Chronicle, on commence à recevoir aujourd'hui des demandes de contributeurs palestiniens qui demandent à être retirés du site, à ne plus apparaître. Pourquoi ne plus apparaître? Parce que avec les outils d'exploitation automatique des données à des échelles inimaginables dont on dispose aujourd'hui et dont les Israéliens sont friands, toutes ces données sont exploitées de manière à constituer des cibles potentielles, réelles, et à des vitesses quasi immédiates. Auparavant, par exemple, pour décider de tuer un intellectuel de renom à Gaza, il fallait une intervention humaine à un moment donné pour prendre une décision dans l'exploitation d'une donnée. Aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle donc, sont vantés pour être vendus hein, sur le marché international, comme pouvant identifier des milliers de cibles en l'espace de quelques minutes. Et ensuite, il est facile d'imaginer que l'on constitue des relais automatiques avec des drones pilotés, automatiques aussi, qui ont des localisations et qui vont à ce moment-là tuer. Donc on arrive à une machinerie qui démultiplie les capacités de tuer. Ramzi Baroud a perdu l'essentiel de sa famille, au sens élargi du terme, à Gaza. Une première fois, ça a été la famille quand même proche, trentaine de personnes, qui ont été tuées. Ça a été un mécanisme extrêmement pervers, vicieux, sadique, où des SMS ont été envoyés par téléphone. Bon, la famille de Ramzi vivait pour l'essentiel dans les environnements du camp de Nusayrat, donc dans quatre maisons. Trois maisons reçoivent des SMS disant « il faut partir, on va vous bombarder ». La quatrième maison ne reçoit rien. Donc toute la famille se regroupe dans la quatrième maison. Et c'est la quatrième maison qui est bombardée. Donc il y a eu un côté délibéré. Délibéré. Et je dirais que la pensée qui vient à l'esprit, c'est qu'on a fait payer Ramzi, d'une certaine manière, quoi. De la pire des manières qui soit. Ça s'est reproduit à d'autres reprises, et au total, dans sa famille élargie, une centaine de personnes ont disparu. La disparition qui l'a le plus touché récemment, ça a été sa sœur Souma, qui était médecin à Gaza. Donc Souma, il raconte un peu son itinéraire dans son autobiographie, qui s'appelle « Résistant à Gaza », et que j'ai traduit pour les éditions 2001, donc il y a près d'une quinzaine d'années. Et Souma a fait des études de médecine à Alep, en Syrie. Et c'était une volonté de la famille de Ramzi Baroud que la seule fille de la fratrie puisse accéder à un métier qualifié et fasse des études de médecine. Les Palestiniens considèrent que l'éducation, la qualification sont des outils de libération. Ils y accordent une importance vraiment centrale. Et Souma a suivi cet itinéraire avec un soutien familial fort. Souma était très proche de Ramzi, ils avaient une relation à distance forcément, mais qui était très forte, et les Israéliens l'ont tué. Ils l'ont tué alors qu'elle était accompagnée d'autres médecins, ça a été un assassinat collectif. Je sais que la disparition de Souma l'a beaucoup affecté, réellement quoi. Mais quand je parle de ça avec lui, ce qui est difficile... Et j'avais parlé de ça avec lui lors de la trêve de janvier 2025, qui avait duré quelques semaines, enfin peut-être jusqu'au début du mois de mars, et après les Israéliens ont repris les bombardements de manière unilatérale. Il m'a dit « Oui, tu sais Claude, les bombardements pour l'instant sont calmés, donc je ne pense pas aux enfants morts, je pense aux enfants qui continuent à vivre. » Et je me suis dit « Bon, il y a une pulsion de vie qui prend le dessus, et qui pour moi est une leçon. » Voilà ce que je tenais à dire sur Ramzi Baroud.
Et aujourd'hui, quelques mots sur les perspectives.
Oui. Alors, bon, il y a des prisonniers qui sont connus, Marwan Barouti, par exemple. Marwan Barouti, personnalité extraordinaire, qui maintenant est incarcéré depuis la deuxième intifada. On sait que Marwan Barouti fait partie d'une perspective politique pour unifier le peuple palestinien. Il a une telle aura, une telle reconnaissance qui transcende les frontières et les différences idéologiques, religieuses. Et c'est pour ça que les Israéliens s'acharnent tellement sur lui. Il est confiné, il est enfermé en isolement depuis des années et des années pour être détruit psychologiquement, mais aussi physiquement, parce qu'il a subi depuis deux ans des passages à tabac répétés, avec des côtes cassées, une épaule brisée. Récemment encore, il a été soumis à de terribles mauvais traitements. Bon, donc il y a un potentiel politique en Palestine, mais qui est incontestable, hein, de gens vivant libres ou de vivants incarcérés. Mais c'est une société qui a un fort potentiel, qui est extrêmement éduquée. C'est une société remarquable. Donc, sur les perspectives, je renvoie d'une manière générale quand même au livre sur notre vision pour la libération, qui est constitué de contributions d'intellectuels palestiniens et qui donne une idée de ce que serait un pays normal avec des institutions disposant d'un gouvernement, de ministères, d'administration, d'un système législatif et qui exercerait sa vie collective. Aurait le droit de se défendre, d'avoir une politique internationale, d'avoir des politiques sociales, d'entretenir les relations qu'ils veulent, avec qui ils veulent. Ce livre donne cette perspective. C'est une traduction collective, mais je me suis attaché par exemple à traduire la contribution d'un archéologue qui s'appelle Taha, qu'on verrait très bien comme un responsable de département d'archéologie dans un ministère de la culture. Hanin Zoabi aussi, qui a été longtemps députée arabe-israélienne à la Knesset, donc palestinienne, descendant de Palestiniens de 48 qui avaient pu rester. et qu'on verrait très bien présidente d'une assemblée constituante pour mettre sur pied, créer et faire voter une nouvelle constitution palestinienne. Il y a également Samar Jabre. Samar Jabre, assez connue en France, elle a fait des études de médecine ici, puis elle y séjourne, elle y vient assez régulièrement. Elle est médecin, puis ensuite psychiatre. Et elle a longtemps dirigé les services de la santé mentale en Cisjordanie. Actuellement, elle a repris une activité plutôt privée. Mais Samar Jabre, c'est une ministre de la santé comme on en rêve. C'est une personne profondément humaine, avec une capacité de travail énorme, avec beaucoup d'empathie. C'est une personne humaine, c'est tout. Il y en a quelques autres comme ça. Donc ce livre, Notre vision pour la Palestine, je le recommande également, aux éditions La Guillotine. Le titre complet, c'est les éditions Guillotine, la maison d'édition qui tranche, je crois, c'est ça. Mais bon, c'est un ouvrage remarquable et qui mérite d'être lu. Sur les perspectives, je voudrais aussi dire un mot sur un peu le contexte dans lequel on vit. Je fais vite alors. Hein. Oui, c'est que je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment de bascule et que il y a des signes avant-coureurs quand même qui montrent que il y a un changement fondamental au niveau de l'opinion internationale. Bon, qui contrôle mal ses institutions, ça ne veut pas dire que ça a forcément tout de suite des implications politiques et économiques. Mais en tout cas, l'élection, par exemple, de Mamdani à la mairie de New York, à mon avis, est un signe avant-coureur et important. Il y en a eu d'autres aussi, hein, la pression sur la FIFA pour que Israël soit expulsé de la FIFA. Bon, ça, vraiment, ce serait important sur le plan symbolique. Il y a aussi la question de la politique européenne vis-à-vis d'Israël, d'imposer qu'il y ait enfin des réunions pour discuter de l'avenir de l'accord d'échange franco-européen-israélien. Donc c'est pas pour rien qu'il y a eu cette initiative de cesser le feu qui n'en est pas un, hein, histoire de couper un peu l'herbe sous le pied et de faire un effort de communication pour faire croire qu'on va trouver des solutions. Mais il n'y a absolument aucune solution. Et d'envisager et le conflit et le génocide continuent comme avant. Mais les perspectives aujourd'hui existent. Dans quel laps de temps, je ne sais pas, mais elles existent.
Et puis nous avons... Notre investissement est aussi pour laisser résonner les voix palestiniennes, oui, qu'on essaie de faire taire. Donc par les livres, par les récits, par les publications, par les émissions radio, par les par tout moyen possible.
Oui, j'en suis convaincu. Oui, c'est que du fait de la tournée que je fais, j'apprends à mieux connaître le mouvement de solidarité, l'ensemble des collectifs. Je suis impressionné par les réseaux que je découvre, des réseaux plus ou moins constitués, plus ou moins solides, plus ou moins permanents. Mais il y a une espèce de quadrillage qui est en train de se faire du territoire où la question palestinienne est un peu présente partout. Donc, il ne faut pas imaginer de grandes stratégies unitaires, hein, sur la solidarité. Toutes les initiatives sont bonnes. Que l'on traduise un livre, que l'on organise un grand rassemblement à Paris comme le 29 septembre, ou que l'on simplement on refuse d'acheter des dattes ou des avocats d'origine israélienne dans un supermarché, tout est bon. Une discussion privée avec un ami où on donne son sentiment, une discussion en famille, une discussion à quelque occasion que ce soit, arborer un koufier, arborer un insigne de Palestine, le drapeau palestinien sur un pins, n'importe quoi. Enfin, que la Palestine soit présente, quel que soit le moyen qu'on utilise, grand, petit, moyen. Mais tout est bon, il faut tout faire. Un petit mot encore, oui. Alors, il y a un fait que je voulais absolument mentionner. C'était ce matin, bon, pour montrer que tout n'est pas gagné. Hein. Ce matin, à 6h, un mot a été arrêté, Omar Al-Soumi. Omar Al-Soumi est un des animateurs d'Urgence Palestine. Donc, à ce jour, il est emprisonné. Il a été condamné à rien. Et ça montre que la répression est toujours là. Et plus le mouvement d'opinion sera fort, et plus la répression se radicalisera. Donc, pensons à Omar Al-Soumi. Il y a une manifestation en cours en ce moment, je pense à Meaux, devant le commissariat. Mais c'est un cas qu'il faut garder en tête et dont on va forcément beaucoup parler dans les temps qui viennent.
Donc, pour cette personne et toutes les autres personnes, toutes les actions, soyons unis à Paris le 29 novembre, 14h, place de la République. Nous sommes attendus par les milliers. Alors, quittons l'émission Une heure en Palestine avec encore la voix de Makadi Nahas avec Hanou Palestine, une composition comme hommage à la résilience et à l'âme inébranlable du peuple palestinien et pour honorer le chemin collectif de résistance.
Steve.